Vous êtes sur RTL.
Du poulet, une douzaine d'œufs, du paprika, du...
Oula, pardon, excusez-moi, ça c'est ma liste de courses, rien à voir. Attendez, qu'est-ce que je dois dire déjà? C'est où? C'est... Ah oui, là, voilà. Excusez-moi.
En direct, depuis l'enregistrement d'avant-hier, et comme toutes les semaines, depuis la semaine dernière, voici votre bon dimanche show.
RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche show, avec Bruno Guillon.
Bonjour et bienvenue sur RTL, dimanche 5 septembre. Merci d'accueillir celui qui va nous accompagner pendant une heure et demie, Monsieur Michel Jonas.
Oui, je crois. C'est un minimum.
Les amis, Michel Jonas.
Pourrais prendre Vénus à l'abordage pour une nuit d'amour partagé.
Michel Jonas.
Dites-moi, même.
Mais Michel Jonas.
Le bonheur, femme à la porte, ouvrez-lui. Le bonheur frappe à la porte, ouvrez-lui.
Michel Jonas.
Une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana.
Et c'est un super mec qu'on va avoir avec nous pendant une heure et demie. Merci beaucoup, Michel.
Merci, Bruno.
D'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi sur RTL.
C'est un plaisir.
C'est un exercice pas facile que je vais réaliser pendant toute une émission. Je suis fan.
Ah.
Et alors ça c'est compliqué.
Ah oui.
Parce qu'après, on va me dire, ouais, mais ça s'en sent trop.
Tu peux pas me piéger, quoi.
Ben, ça va être compliqué, quoique si.
Si, quand même.
Je vais pouvoir vous piéger pendant une heure et demie parce que, d'ailleurs, un petit jingle, Michel, qui va revenir très souvent pendant l'émission, c'est celui-ci.
Quelqu'un m'a dit.
Quelqu'un m'a dit, j'ai deux, trois connaissances que nous avons en commun qui ont balancé quelques dossiers. Et quand j'ai dit je vais recevoir Michel Jonas, ils m'ont dit c'est génial, tu vas voir, tu reçois un gamin. Ce Michel Jonas, c'est toujours un gamin sur scène.
C'est vrai.
Ben c'est vrai. Alors par contre, il me manque deux, trois infos. Et c'est pour ça, Michel, que nous allons commencer avec votre bio à trous. C'est-à-dire qu'il manque des passages et je vais vous demander, si vous le voulez bien, Michel, de les compléter.
Ah.
Voici l'histoire de Michel Jonas. Michel Jonas, vous êtes né à Drancy et avez grandi entre la Seine-Saint-Denis et la capitale. Vous quittez l'école à l'âge de 15 ans, car pour vous, l'école, c'est synonyme de...
Contrainte.
Vous vous essayez à tous les styles, la peinture, le dessin, la comédie, mais également, et ça on le sait moins, à...
La musique.
Très bien. Enfin, ça, on le sait quand même. C'est finalement d'ailleurs sur le piano familial que vous trouverez votre voix. Au milieu des années 60, Michel, vous montez votre premier vrai groupe, le King Set. Et avec le recul, vous vous dites que ce nom est vraiment...
Était vraiment bien choisi. Parce qu'ils étaient bons, quoi.
Vous sortez dans la foulée votre premier 45 tours sous le nom de Michel King Set.
Ouais.
Et en repensant à votre première télé, vous vous dites encore aujourd'hui...
J'avais du chemin à faire.
Extrait.
Bah oui. Oh là là. 67.
Exactement.
67 à pesanteur. Mais c'était pas mal, c'était
l'amour. Ah mais c'était vachement
c'était
bien.
C'était... Histoire, c'était une histoire d'amour entre un terrien et une extraterrestre.
C'est ça.
C'était assez original.
On était déjà un peu dans un côté ésotérique qui vous caractérise et dont on parlera bien entendu dans l'émission. Début des années 70, c'est votre premier passage par l'Olympia en première partie de Stone et Chardin. Stone et Chardin qui n'étaient pas les derniers à
m'encourager.
En 1979, vous revenez à l'Olympia. Mais cette fois-ci, la tête d'affiche, c'est vous, Michel. Et voir son nom écrit en grosses lettres rouges, ça fait...
Ben, ça fait quelque chose. C'est vrai que je me souviens d'avoir regardé ça assez longtemps. Je m'étais mis sur le trottoir d'en face et puis je regardais mon nom en pensant que mince, mes parents vont être fiers quand ils vont voir ça. Et en même temps, c'était pas... C'était agréable, mais en même temps, c'était pas, pour moi, si surprenant que ça, parce que j'étais tellement convaincu que c'est ce métier-là que j'allais faire, que ça, cette étape-là, c'est comme si je l'avais pressenti, quoi.
C'est ça.
Et donc, ça confirmait. C'est une confirmation, voilà.
Avec les années 80, c'est la consécration, les succès s'enchaînent, Joueurs de blues, Les Fourmis Rouges, et votre premier disque d'or qui, aujourd'hui, se trouve...
Ah, je ne sais pas. Non, je ne sais pas où il est, mais il doit être peut-être dans un endroit à la CAF, peut-être. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je ne vais pas mettre des disques d'or sur un mur et puis les regarder pendant des heures. Franchement, je préfère regarder les visages des gens dans une salle de spectacle.
Les années passent, les succès s'accumulent, que ce soit au rayon disque ou sur scène, après le blues, le swing, le funk électro dans les années 2000, ou bien des univers plus intimistes, comme votre tournée piano-voix dont on va parler. On se dit que le seul style de musique qui manque à votre répertoire, c'est...
Heavy metal, peut-être, j'ai pas vraiment fait ça.
Et le Zouk Love.
Ah oui, ça, le Zouk Love.
Votre talent vous amène également devant les caméras, dans des films et téléfilms à succès, mais également sur les planches. On se demande vraiment quand vous avez le temps de...
faire du saut à la perche.
En tout cas, vous avez trouvé du temps pour venir nous voir, et ça, c'est un vrai bonheur. Michel Jonas, bienvenue dans votre bon dimanche chaud sur RTL. On va parler dans quelques instants de Groove, c'est la tournée, mais qui se déroule en parallèle d'une tournée piano-voix un peu plus intimiste. Michel Jonas est avec nous, à tout de suite.
RTL, le bon dimanche chaud. Qu'est-ce qui dure une heure et demie, qui fait rire et qui sent bon la lavande ? Le bon dimanche chaud sur RTL. On n'est pas tout à fait sûr pour la lavande, c'est pas fait encore.
Michel Jonas est notre invité aujourd'hui, notre invité d'honneur du bon dimanche chaud. La tournée Groove qui va passer notamment au Palais des Sports les 4 et 5 décembre prochains. Et puis on va parler également des dates de tournée piano-voix, beaucoup plus intimistes. En fait, moi j'ai lu des interviews où des fois des journalistes vous disaient « Ah bah Michel, vous êtes revenu, etc. » Mais en fait, vous partez jamais entre la scène et les disques. Vous êtes toujours là, en fait.
Je suis content que vous le disiez, parce que c'est vrai que ça m'énerve un peu quand on vous revenez. C'est vrai, j'ai jamais quitté la scène. Effectivement, j'ai toujours enchaîné les tournées. Donc c'est peut-être aussi des absences de sorties d'albums ou des choses comme ça.
Mais est-ce que du coup faire une tournée Groove en parallèle une tournée piano-voix, c'est un peu fromage et dessert? C'est-à-dire qu'on a des sensations différentes sur le côté beaucoup plus chaud avec Manu Katché à la batterie qui suit, etc., que se retrouver avec Jean-Yves D'Angelo au piano et plutôt en duo sur scène.
Oui, c'est deux exercices différents, mais en même temps de bonheur différent et presque complémentaire. En fait, le piano-voix avec Jean-Yves, on l'a commencé, ça fait déjà 7 ans. Donc on doit être on appelle ça des saisons, c'est-à-dire quand on change le répertoire. Vous voyez. Mm-hmm. Donc on en est effectivement à la saison 4. Mais ça, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, cette histoire de piano-voix, d'être à deux. Et le seul auquel j'ai pensé, c'était Jean-Yves. Parce qu'on a pratiquement commencé ensemble. Vous parliez de Manu Katché, on a commencé ensemble aussi dans les années 80. Donc Jean-Yves, on ne s'est jamais vraiment quitté. Il faisait des arrangements, on se retrouvait très souvent. Et puis sur scène aussi. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire ce piano-voix avec Jean-Yves. J'ai été le voir, il m'a dit « Ah bon, t'es sûr ?» parce qu'on peut se poser des questions, parce qu'on voulait... Vous voyez, comment on va faire ? Est-ce qu'on peut faire joueur de blues ? Est-ce qu'on peut faire du blues du blues ? Est-ce qu'on peut faire la boîte de jazz sans batteur, sans bassiste, sans chœur, sans etc. Et alors je lui ai dit, écoute, essayons. Et on s'est retrouvés dans son petit studio, et on s'est rendu compte que c'était très intéressant, parce qu'en fait, il fallait suggérer. Oui, il n'y a pas de batterie, effectivement, il n'y a pas de basse. Et que juste le piano, avec le piano et la voix, il fallait suggérer la pulsion rythmique. Et on y arrive. Mais c'est un exercice, c'est beaucoup plus confortable, le spectacle Groove. Hein. Quand il y a Manu, quand il y a tous les musiciens, c'est beaucoup plus confortable. Parce que là, vous voyez, ça, c'est très subtil. C'est-à-dire chaque nuance que fait Jean-Yves m'influence, chaque nuance que je fais l'influence. Donc, mais c'est, ça, c'est très intéressant, parce que la musique, c'est pas que des notes, c'est vraiment aussi ce lien subtil qui relie les êtres humains sur une scène. Et donc ça, on le vit vraiment très concrètement, tout le temps, hein, mais on le vit très concrètement avec Jean-Yves.
Oui, parce que vous avez une particularité, Michel, à la différence de beaucoup d'autres chanteurs, vous n'utilisez pas de prompteur. C'est-à-dire que tous vos textes, vous les emmagasinez dans votre esprit, et quand vous les, j'allais dire, vous les chantez sur scène, mais quand vous les jouez sur scène, il y a un vrai truc viscéral. On est limite dans du travail d'acteur sur l'interprétation des chansons.
Quelqu'un m'a dit...
Il était obligé de se concentrer quand il jouait avec vous, parce que sur certaines chansons, genre celle-ci,
dans les mers de...
si vraiment il vous suivait en vous écoutant, en vous regardant, il pouvait pleurer en fait.
C'est pas Jean-Yves ?
Si, si.
Quelqu'un qui peut pleurer, c'est Jean-Yves.
Non, mais c'est vrai, quand on vous voit en concert, y a... vous êtes habité par les textes.
Quand vous êtes sur une scène, qu'est-ce qui compte ? C'est l'intention. Vous voyez ? Tout à l'heure, vous m'avez parlé, vous avez fait des gestes, vous avez pas calculé, vous vous êtes pas dit, tiens, je vais faire ce geste-là quand je viens. Pourquoi ? Parce que votre esprit était branché sur qu'est-ce que vous vouliez me dire. Mm-hmm. Donc, sur une scène, si je ne suis pas dans les mots que je suis en train de chanter, je vais pas être là, je vais pas être présent. Vous imaginez, ça peut être très grave de pas être là. Ça m'est arrivé 2-3 fois, hein, c'est pas beaucoup en 50 ans de carrière.
Il y a prescription.
Où j'ai pensé à autre chose. Tiens, combien de kilomètres il y a après, entre cette ville et l'autre, tiens, qu'est-ce qu'on va manger? Et là, je me suis rendu compte que c'est terrible, parce que là, on s'en va. Donc, si vous voulez, cette histoire d'être dans la chanson et de faire un avec la chanson, c'est toute l'histoire de la distance. C'est-à-dire, je sais très bien que je suis en train de chanter, mais en même temps, je suis complètement dans les mots de cette chanson, parce que sinon, je ne suis pas là. Et sinon, c'est ce qui se passe quand on commence une carrière. C'est-à-dire qu'on est très... On s'observe soi-même, parce qu'on se juge soi-même, parce qu'on veut être bon, parce qu'on se demande ce que va dire le public, et comment je chante, est-ce que je me tiens bien, quel geste je vais faire, et tout ça vous éloigne de l'intention, c'est-à-dire des mots qui sont dans la chanson. Mm-hmm. C'est ce que amène l'expérience. L'expérience fait que, voilà, et fait que aussi, ça vous éloigne de la peur. Parce qu'au début d'une carrière, on veut réussir. Et c'est normal. On est beaucoup dans l'ego. C'est normal. Parce qu'on sait que pour pratiquer ce métier-là, il faut qu'on ait un minimum de reconnaissance pour avoir le confort. Donc on le sait, on est un petit peu dans l'ego. Mais ça s'éloigne petit à petit, progressivement.
Là, vous n'avez plus le trac aujourd'hui ?
Ça peut m'arriver. Mais ce n'est pas un trac négatif. Parce que la peur s'est éloignée. Parce que je sais, j'ai confiance. Déjà, il y a une confiance dans les musiciens, dans le spectacle, etc. Je sais que ça va tourner. Donc, qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je risque ? Vous savez, mon premier spectacle où j'étais seul, c'était en 77 au Théâtre de la Ville, novembre 77, une heure, 18h30, 19h30. C'était la première fois qu'on me voyait, moi, puisque vous avez parlé des premières parties. J'ai fait des premières parties. Et là, je me prends un trac avant d'entrer en scène. Et je me dis, si ce trac-là, je m'en débarrasse pas, je vais me le trimballer toute ma vie. Et je me suis fait un espèce de petit cinéma en me disant, mais ça a été très vite hein, dans ma tête. Je me suis dit, mais j'ai relativisé, en fait. J'ai dédramatisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver ? J'oublie les paroles, et alors, est-ce que les gens vont me tuer ? Est-ce qu'il n'y a pas plus grave sur Terre comme drame quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas des vous voyez ? Voilà. Donc j'ai fait ce petit truc-là dans ma tête, j'ai dédramatisé et ça s'est très bien passé. Donc non, ça va. Parce que si vous avez peur, si vous avez le trac, vous perdez un petit peu de vos moyens et surtout, ça vous éloigne de ce qui est essentiel dans notre travail, dans notre métier, c'est-à-dire la joie de faire, le plaisir de faire, la joie de chanter, la joie de faire de la musique. Si vous avez peur, ça vous éloigne. Donc ça, c'est très embêtant. Alors, c'est pour ça que je suis complètement, effectivement...
habité par la chanson.
Mais c'est pas que je suis habité, je suis... Voilà,
dans l'instant.
Je suis dans l'instant.
Alors, vous parliez d'oublier les paroles. Une chose est sûre, c'est que si d'aventure ça devait vous arriver, vos fans, eux, les connaissent. Et alors, quand j'ai dit que je recevais Michel Jonas ici à RTL, je me suis aperçu que vous aviez beaucoup de fans ici, dans les animateurs de la station. J'en ai deux, trois.
Bonjour à tous, c'est Julien Courbet. J'aime beaucoup Michel Jonas et j'aime surtout le côté jazz de la chanson Les Wagonnets que j'écoute très souvent pour le temps.
Parlez-vous des wagonnets ? Parlez-vous des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli.
Yves Calvi, qui anime la matinale d'RTL, s'est plié à l'exercice. Ah,
c'est toujours délicat quand on a beaucoup d'admiration pour un artiste de chanter un extrait d'une de ses chansons, mais j'assume parce que vraiment, celle-là, je crois qu'elle m'a fait pleurer. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère.
Alors on regardait les bateaux.
J'en ai d'autres, je vais les distiller tout à l'heure, mais vous l'avez compris, quand on reçoit Michel Jonas, on se dit qu'on reçoit un monument de la chanson française. Ouais. C'est pour ça, Michel, que votre première interview, c'est une interview monument. Michel Jonas, est-ce que comme la Tour Eiffel, vous auriez pu être éphémère, mais finalement vous êtes resté ?
Ah, j'aurais pu être éphémère. Ah oui, c'est pas mal d'être éphémère. Mmh. En fait, ce qui compte, c'est vraiment d'être intensément dans le moment présent. Donc, éphémère, est-ce qu'on pense au passé ? Est-ce qu'on pense au futur ? Est-ce qu'on pense qu'on va partir et mourir ? Non, on est dans l'instant présent, ça doit être bien aussi.
Est-ce que, comme la Statue de la Liberté, vous avez quitté la France pour traverser l'Atlantique ?
Oh non, je me suis baladé quand même, hein, j'ai voyagé, j'y étais, outre-Atlantique, mais pas pour faire carrière. Oui.
Est-ce que, comme le sphinx de Gizeh, vous traversez les époques sans sourciller?
Ah oui.
Mm-hmm. Est-ce que, comme le palais de l'Élysée, vous avez une avenue à votre nom?
Non, mais je crois que j'ai une rue.
Exactement.
Non, mais on me l'a dit, je ne l'ai jamais vu.
À Saint-le-Noble,
c'est ça.
Dans le 59, c'est il y a ça. Une rue Michel-Jonas.
C'est incroyable, non? Ça, c'est incroyable.
Mais je trouve ça canon, bien
ah
sûr.
Ah ouais, c'est super. Il faudrait que j'aille la voir, quand même, ça.
Est-ce que, comme la pyramide de Chichen Itza au Mexique, les gens font souvent des fautes en écrivant votre nom?
Ça arrive.
Le S, le Z, le...
Le S, le Z. Souvent, on oublie le Z.
Est-ce que, comme le Taj Mahal, vous êtes encore plus beau à l'intérieur?
C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Mais je crois que ce qu'on voit de quelqu'un, c'est le reflet de ce qu'il a dedans. Comme le travail qu'on peut faire, d'ailleurs. Hein. Les chansons reflètent notre être intérieur. Donc, j'espère que c'est bien. En tout cas, ce qui est intéressant avec le fait de chanter, c'est qu'on ne triche pas. C'est-à-dire, on peut tricher en parlant, beaucoup plus facilement. Mais la voix chantée, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je n'ai pas la même voix quand je chante et quand je parle. Hein. Mmh. Et souvent, c'est comme ça. Parce qu'avec le chant, on se relie à ce dont vous parlez, à notre être intérieur. Et avec ça, on ne peut pas trop tricher. Donc c'est ça qui est intéressant dans la chanson, c'est que c'est vraiment un chemin initiatique de chanter, parce qu'on part à sa propre découverte. Donc ça, c'est très intéressant.
Est-ce que, comme la tour de Pise, vous penchez un peu d'un côté?
Mais duquel vous parlez? De quel côté? Mais
justement, j'allais vous le dire.
Je ne sais pas, non.
Est-ce que, comme Big Ben, on vous reconnaît plus vite à l'oreille qu'au regard?
Ah oui, ça c'est sûr.
Ouais.
Ah non, ça c'est sûr. Moi, je peux me balader tranquille dans les rues, personne ne m'arrête, hein, personne ne me reconnaît. Alors, j'ai même vécu des trucs, des fois, je me rappelle par exemple, j'étais dans un magasin, et des gens me regardent longtemps comme ça, et je me dis, ils me reconnaissent, mais ils ne savent pas mon nom. Ça arrive très très souvent. Et le monsieur vient vers moi et me dit « Vous n'êtes pas dans le prêt-à-porter
?» Le dernier album de Michel s'appelle « La Méouge, le Rhône et la Durance ». Moi, j'avais envie qu'on attaque l'émission musicalement avec un titre extrait de cet album que j'ai choisi. Vous allez me dire si ça vous va. J'ai voulu qu'on passe traverser la mer à la nage.
Ça me va.
Et ça va. On l'écoute maintenant, c'est Michel Jonas qui est sur RTL.
Pour un seul de tes baisers, accrocher un hamac à deux nuages, que le vent puisse te bercer.
traverser la mer à la nage. Extrait du tout dernier album de Michel Jonas sur RTL. Michel, est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des artistes qui vous appellent pour vous demander l'autorisation de faire une reprise, par exemple, de vos chansons ?
Non, ça ne m'arrive pas souvent parce qu'en fait, ils n'ont pas à m'appeler pour me demander l'autorisation. Vous avez le droit de chanter Les Wagonnets demain, hein, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas interdit.
Je ne
on n'a pas à demander l'autorisation. On peut demander l'autorisation si on veut changer ou transformer ou adapter ou des trucs comme ça. Oui, mais sans ça, moi, j'ai le droit de chanter du Beatles ou du Michael Jackson.
J'ai quelques reprises. Ça, c'est Les Vacances au bord de la mer.
C'est Aurélie Saada.
Exactement. Brigitte.
Brigitte.
Bravo. Une autre reprise.
Je voulais te dire que je t'attends.
C'est Manhattan Transfer ou bien...
C'est Dev.
Ah ben oui, pardon.
Si je perds mon temps.
J'entendais pas, j'ai jugé l'intro.
Une autre.
J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scarf Peterson, de Lionel Hampton, de Scott Hamilton, de Duke Ellington.
Philippe Catherine.
Eh oui, Philippe Catherine.
Je rase les murs de la boîte de jazz.
Elle est drôle, hein, cette...
Magnifique, cette reprise. Magnifique. Et celle-ci, vous la connaissez ?
Ah non.
On parlait tout à l'heure de Heavy Metal, Giants of Metal, qui a fait une reprise en hard de la boîte de jazz.
Je ne savais pas.
Tiens, d'ailleurs,
quelqu'un m'a dit que...
sur la tournée piano, voix, vous n'étiez pas dans l'idée au départ de jouer la boîte de jazz dans la tournée piano-voix.
Non.
Et puis ce quelqu'un m'a dit qu'il avait un peu insisté et puis qu'il vous a dit, bon, on va tester et puis on verra ce que ça donne. Et que dès les premières notes du...
Bah oui, c'est ça.
Les gens sont partis tout de suite.
Oui, je fais un petit speech avant en leur expliquant que quand on s'est réunis la première fois avec Jean-Yves, et c'est vrai, on se disait non mais il y a des chansons où on se disait c'est pas possible, quoi, dans la boîte de jazz, on disait ça c'est trop difficile parce qu'il faut des chœurs, des cuivres, tout ça. Et on s'est dit, mais peut-être que... Oui, il y a un jour où on s'est dit, on va essayer. Alors j'explique ça au public en leur disant, peut-être vous pouvez nous aider, peut-être vous pouvez faire les réponses et les chœurs, etc. Et donc ça marche bien, ça va.
Alors on parlait de reprises tout à l'heure, qui sont des reprises magnifiques que je vous ai fait découvrir. Et merci, au grand merci, pour l'instant, vous n'avez pas eu ce fameux album Tribute, où des nouveaux artistes essayent de rendre hommage à des chanteurs cultes. Sinon, ça aurait donné ceci.
Après avoir maltraité Jean-Jacques Goldman. Après avoir souillé le groupe Téléphone. La nouvelle génération s'attaque à un nouveau mythe de la chanson. Découvrez Tribute to Michel Jonas avec Gims.
Joueur de blues, on est joueur de blues.
Avec Aya Nakamura.
Super Nana. C'est une super nana. Super nana, c'est une super nana, super nana.
Tribute to Michel Jonas. Les plus belles chansons de Jonas, foulées aux pieds par Jules.
Je veux pas que tu t'en ailles. Je veux pas que tu t'en ailles.
Et enfin, Soso Maness.
Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz. Histoire de retrouver un peu le goût de la vie.
Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz. Histoire de retrouver un peu le goût de la vie.
L'album hommage à Michel Jonas, l'album qui te fait préférer les versions originales.
Et ça tombe bien, l'original est avec nous cet après-midi sur RTL.
Très drôle.
Michel Jonas, vous restez avec nous dans quelques instants. C'est Valérie Zetoun qui va venir nous rejoindre pour Z comme Zetoun.
RTL, le bon dimanche show. Le bon dimanche show sur RTL. Si le titre n'est pas très clair, je vais vous faire un dessin. Et voilà, Bruno Guillon sur RTL.
Michel Jonas est l'invité de ce deuxième Bon Dimanche Show en ce dimanche après-midi sur RTL. Ça va Michel, pour l'instant,
oui,
on passe un bon moment.
Merci, très bien.
Parce que sinon, on a plein de choses à votre disposition. D'ailleurs, regardez, parce que moi j'ai dit, moi je reçois Michel Jonas, je veux que Michel Jonas soit bien. On a même prévu du saucisson hongrois avec du vin blanc hongrois, du Tokay.
Oh là là.
Voilà, s'il y a besoin.
Du Tokay.
Du Tokay, voilà, je le dis bien. Donc s'il y a besoin, à n'importe quel moment, on va le poser là en attendant. Après, si les gens voient la vidéo, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait.
Ça, c'est du Tokay.
Ça, c'est du Tokay.
Parce que c'est du vin sucré, hein.
Ouais, un peu.
Ah ben.
Mais c'est du vrai Tokay hongrois.
Ah ben c'est vrai.
Mais bien sûr.
Tiens, on trinque alors.
Eh ben chine, Michel.
Oui, à la sienne.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Pas tout de suite.
Non, il est plus saumon fumé. Est-ce que c'est vrai que vous avez un rituel quand vous faites la tournée piano-voix, c'est-à-dire que vous mangez aux alentours de 19h et qu'à chaque fois, le repas, c'est saumon et poulet depuis 10 ans?
C'est à peu près ça.
Ouais.
Mais c'est aussi pour l'autre spectacle, hein, c'est pareil.
C'est vrai.
En règle générale, oui, on mange vers 19h. Mais saumon et poulet, c'est parce que c'est... il faut quand même se sentir léger et quand même avoir des forces. Donc on prend... c'est des protéines. Quoi.
Exactement. Voilà. Il a pris des forces pour être avec nous cet après-midi. Voici Valérie Zetoune.
Un cavalier qui surgit le dimanche midi court vers l'aventure radio. Son nom, il le signe à la pointe du micro, d'un Z qui veut dire Zetoune.
Valérie Zetoune est avec nous cet après-midi. Valérie Zetoune, grand producteur de musique.
Voilà, bon, et puis je suis très fan de vous, puisque la première galoche que j'ai fait dans ma vie, c'était sur Lucille à Marion.
Ah.
Enfin, sur la chanson Lucille avec,
oui,
Marion.
Bien sûr,
oui, j'ai bien compris.
Voilà.
Bon, Valérie, chaque semaine, voilà, revient sur un fait d'actualité qui l'a un peu marqué. Il a carte blanche, c'est Z comme Zetoune. Valérie, on vous écoute.
Parmi le flot d'informations dont nous sommes abreuvés, il y en a une qui a retenu mon attention cette semaine, mon cher Bruno, c'est celle du retour médiatique de Benjamin Griveaux.
Ah bah oui.
Pour mémoire, M. Griveaux avait dû jeter non pas l'éponge, mais le Kleenex dans la course à la mairie de Paris après qu'une jeune femme l'ait piégé en balançant une vidéo sur les réseaux sociaux où on pouvait voir qu'il excellait au fameux jeu du 5 contre 1. Ce piège avait d'ailleurs été organisé par Piotr Pawlinski, artiste de rue, qui s'était lui-même cloué les sacoches sur la place Rouge pour protester contre le régime de Poutine.
Et cousu la bouche aussi.
C'est étonnant, ce besoin d'exposer ses parties intimes pour exister. Je dois avouer que même si je ne suis pas le dernier pour la déconne, la vision de Griveaux en train de faire pleurer le père de ses enfants m'avait mis très très mal à l'aise. D'ailleurs, si une histoire pareille m'était arrivée, je serais parti me terrer à l'autre bout de la terre, après m'être fait scalpériser la frime par tous les chirurgiens esthétiques de Jack Lang réunis. Ce n'est apparemment pas le cas de M. Griveaux, qui, à peine 18 mois après les faits, revient tout sourire sur le devant de la scène pour nous annoncer qu'il quitte la politique pour se reconvertir à la télévision. Mmh. Oui, il va présenter une émission sur une chaîne très modestement appelée Bismart. Bismart signifiant « soyez intelligent » en français. S'il faut être intelligent pour regarder M. Griveaux à la télévision, alors je suis heureux d'être un con. Mais attention, s'il appelle son émission Les Années Tub et que son premier invité est DSK, alors je serai le premier devant mon écran.
Les Années Tub.
Nous vivons une drôle d'époque où les journalistes se rêvent en De Gaulle et où les politiques se voient en vedettes de télévision. Mais à partir de là, on peut bien sûr tout imaginer. Tiens, si j'étais producteur de télé, je proposerais à Sibeth Ndiaye de présenter une version moderne de Ballet Masque. Je suis certain qu'elle ferait le même triomphe qu'Audrey Pulvar aux élections régionales. Et puisque le professeur Raoult doit partir à la retraite, il pourrait se reconvertir en père Fouras dans Fort Boyard. Une émission qui vous est chère, d'ailleurs, mon cher Bruno, puisque je sais que vous êtes le recordman des participations.
Tout à fait.
Si Robert Ménard, ancien journaliste, est devenu maire de Béziers, pourquoi ne pas imaginer Jean-François Copé et son fameux pain au chocolat en présentateur du meilleur boulanger de France sur M6, ou encore un Hidalgo présenter le point circulation embouteillage sur France 2. Pour conclure, je suis triste de voir comme le monde change, car à l'époque de Sébastien Thoen, il fallait coucher pour faire de la télévision et ça avait du panache. Aujourd'hui, un minable asticage de manches mal éclairé à l'iPhone suffit. Les traditions se perdent et c'est bien dommage. Bon dimanche chaud sous vos applaudissements.
Valérie, c'est tout. Valérie, je vous fais un petit plaisir. Voilà l'espace de 2 secondes.
Ah oui. Hey.
Oui, il y y a celle-là, et si je peux me permettre, et après je vous laisse, il y a celle-là, il y a Groove Baby Groove. Et souvent, il y a des jeunes artistes qui me disent, moi, je veux chanter en anglais parce que l'anglais swing et le français ne swing pas. Donc, je leur fais une petite posologie en leur disant, tu vas m'écouter tout Jonas, et puis après, tu me rappelles pour me dire si ça swing pas le français.
Alors, justement, Groove Baby Groove, on l'entend derrière moi. Et là, pour le coup, sur l'album où il y a Groove Baby Groove que vous avez enregistré à Los Angeles, l'album était tout fini le vendredi soir et il restait lundi matin.
Oui.
Et du coup, le quelqu'un en question vous a dit bah, « Michel, c'est quand même dommage, on a un studio lundi, ça serait bien de prendre une chanson. » Mais vous n'aviez pas de titre. Et en plus, vous, vous êtes connu pour mettre plusieurs mois, voire plusieurs années pour chaque texte. Et là, en une nuit, Groove Baby Groove.
C'est ça. C'est curieux. Hein.
Ouais.
Mais c'est vrai, c'est une des rares chansons qui, comme ça, très vite, en une journée, oui. Mais en fait, je raconte un peu l'histoire.
Mais oui, allez les gars, bye bye, c'est la fin.
Je vais m'en aller demain, je fais mes bagages, etc. Le French Singer, et puis les gars m'attendent au studio. C'est vraiment l'histoire de ces séances qui se sont très bien passées à Los Angeles pour l'album Où est la source, avec Steve Gadd à la batterie, avec Abraham Laboriel à la basse. Enfin, j'avais du beau monde, j'avais des grosses pointures, et qui ont fait la tournée après. Alors qu'on me disait, non, ils vont faire l'album, ça c'est sûr, parce que de toute façon, c'est des mecs, c'est des musiciens, tu les payes, ils jouent avec. Mais je dis, non, mais moi, je veux pas faire un album avec des musiciens qui vont pas venir avec moi en tournée. Mais non, ben, demande-leur. Et ils sont venus. Et ils ont adoré ça, parce qu'ils aiment bien être en France, hein, les Américains.
Évidemment. Michel, est-ce que vous êtes sensible aux critiques?
Je peux l'être, oui.
Alors attention, parce que je vais vous faire écouter des sons. En fait, on s'est amusé à récupérer sur Internet, c'est avec Manon, on peut tout mettre sur Internet, des critiques. On a choisi votre album de 2005, Michel Jonas, de 2005. Je vais vous faire écouter des sons, mais dans des langues différentes. Et vous allez devoir me dire si c'est une critique sympa ou une critique moins sympa.
Ah bon ?
D'accord, vous allez voir, vous allez comprendre. On va commencer avec la critique numéro 1.
El sol i la moció toquen directament la nostra ànima. Un gran moment per no perdre's. Gràcies, senyor Jonas.
Alors ça, c'est du catalan. D'après vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise critique ?
Gracias, bon moi je dirais que c'est une bonne critique, je me trompe ?
C'est une bonne critique. Regardez, on voit le message qui apparaît sur l'écran derrière moi. Le groove et l'émotion touchent directement notre âme. Un grand moment à ne pas rater. Merci, monsieur Jonas. J'ai une critique en islandais.
Je connais moins.
C'est sympa ou moins ?
Ouais, c'est entre les deux. Hein. Elle n'a pas l'air sûre.
La critique est la suivante. Album sympatoche, mais je préfère celui de Daft Punk qui est sorti la semaine dernière. Ah.
Mais j'avais bon, hein, là.
Vous aviez bon, exactement. J'ai du Tagalog. C'est la langue des Philippines. Enfin, c'est un des langages des Philippines parce qu'il y en a 190 aux Philippines. Écoutez.
Matapos ang isang linggo ng pakikinig sa kahanga-hangang album na ito, naghahanap pa rin ako ng mga salita upang ipahayag ang aking paghanga. Isang espesyal na banggit sa Barcelona na gumagalaw sa akin dahil hindi posible.
Alors ça, le problème des Philippins, c'est qu'ils ont du mal à résumer. C'est une bonne ou une mauvaise critique?
Ben, je comprends pas Barcelona, mais ça a l'air pas mal.
C'est une bonne critique. Après une semaine d'écoute de ce merveilleux album, j'en suis encore à chercher les mots pour exprimer mon admiration. Une mention spéciale à Barcelone qui m'émeut comme c'est pas possible.
Ah, c'est ça.
Très sympa. Et on va passer directement à la critique numéro 5, si vous le voulez bien, puisqu'elle est en hongrois.
Non.
Si.
A kapott lemez nem új. Osztottok és karcos lemez. Visszatérek. Nagyon csalódott.
Nagyon, ça veut dire beaucoup. Donc moi je dis que c'est bien.
Alors en fait, la critique ne concerne pas l'artiste, mais le support. La critique, c'est le disque reçu n'est pas neuf, boîtier fondu et disque rayé, je retourne très déçu.
Donc c'était disque très rayé.
C'était disque très rayé.
Parce que Nadion, ça veut dire beaucoup, j'ai compris ça.
Disque très rayé.
Ben oui.
Michel Jonas, c'est notre invité sur RTL, c'est le bon dimanche chaud. On passe un bon moment, j'espère que vous aussi. On va revenir dans quelques secondes avec une interview qu'on a testée la semaine dernière avec Cadmerade qui avait beaucoup aimé. On s'est dit, vu qu'on a Michel Jonas, on va faire l'interview tirée par les cheveux. A tout de suite.
RTL, le bon dimanche chaud. Ils ont travaillé jour et nuit pendant des mois et des mois avec les meilleurs cerveaux du pays. Et ils ont réussi. Ils sont allés sur Mars. Là, je parle de la NASA.
Le bon dimanche chaud, eux, non. C'est bien simple, ils ont commencé à bosser il n'y a même pas deux heures. 14h, 15h30, c'est le bon dimanche chaud sur RTL.
Avec Michel Jonas qui est notre invité cet après-midi. Samedi 4, dimanche 5 décembre 2021, c'est au Palais des Sports qu'on va venir vous applaudir pour la tournée Groove. Et en parallèle, il y a toujours les dates de tournée Piano Voile. 15 septembre prochain, vous serez au Printemps de Pérouse, c'est au Château de Jazé. Et là aussi, Piano Voile, toutes les dates, on va les mettre bien entendu sur le site rtl.fr. Je le disais il y a quelques instants, Michel, nous avons reçu Kad Merad en première invitée la semaine dernière, qui vous aime beaucoup. Et on a fait avec Kad une interview tiré par les cheveux, ce qui tombe plutôt bien puisque je crois que vos parents étaient coiffeurs.
Oui.
Voilà, et ben vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Michel, vous êtes né en 1947.
Oui.
1 plus 9 plus 4 plus 7, ça fait 21.
C'est la numérologie là.
21, c'est le département de la Côte d'Or. L'or, c'est cher. Michel, qu'est-ce qui est le plus cher à vos yeux aujourd'hui?
La liberté. Ça a toujours été.
Michel, les 4 et 5 décembre prochains, je le disais, vous serez au Palais des Sports. Le sport, c'est cette activité qu'on pratique pour rester en forme. Une forme, ça peut être un carré, un triangle ou un rond. Le rond, ça ressemble à un O. Et oh, c'est ce qu'on dit quand on est surpris. Michel, qu'est-ce qui vous surprend dans la vie aujourd'hui?
Ben, je me surprends moi-même à toujours m'émerveiller de l'instant présent. Voilà. Il y a un sage qui a dit il y a autant de yoga qu'il y a d'individus. C'est vrai, parce que chacun chante. On a tous un chemin. Des fois, vous faites des rencontres avec des livres, avec des gens, ou avec des gourous, avec de la méditation, ou avec quoi que ce soit, ou avec un paysan, ou avec... Peu importe. Mais en tout cas, on est à la recherche de ça. Et finalement, on se dit que la spiritualité, c'est une question constrimbale, et c'est surtout la recherche de soi-même. Et quand on arrive à se relier avec une vérité qui est en soi, alors on trouve quelque chose de très intéressant, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des événements, qui ne dépend pas des autres. Vous voyez, je vais être heureux quand ? Je vais être heureux quand l'autre va me dire ça, ou quand je vais vivre ça, ou quand je vais avoir ça. Ce n'est pas comme ça. C'est un état d'être, de bien-être, qui nous est donné. Parce que moi, je pense qu'on est sur Terre pour vivre le bonheur.
Alors là,
ben c'est vrai.
Quand on a cette phrase, bien sûr. Dernière question tirée par les cheveux, cher Michel. En 2018, vous avez fait un duo avec Eddie Mitchell. Doc Gineco aussi a fait un duo sur le titre C'est beau la vie. C'était en 98 avec Bernard Tapie. Tapie qui s'écrit avec un E, à ne pas confondre avec le tapis, l'objet qui s'écrit avec un S. Un peu comme le pi de vache avec un S et la pi avec un E, l'oiseau. Et vous, Michel, si vous étiez un oiseau? Parce que je sais qu'il y a un truc qui vous porte depuis longtemps, c'est que votre rêve ultime, ce serait de pouvoir voler. C'est vrai ou pas ?
C'est vrai. C'est vrai, ça, c'est un rêve que je fais très, très souvent. Mais en plus, je le fais et je sens que je vole dans mes rêves. C'est-à-dire, je sens que c'est comme si c'était possible, comme si on arrivait, avec son corps physique, là, à vaincre la pesanteur. Mais c'est vrai que je rêve. Enfin, être un oiseau, je trouve ça extraordinaire. J'ai fait une chanson là-dessus, j'en ai fait peut-être plusieurs. Mais être un oiseau, ça doit être formidable. Vous êtes vraiment, vous vous laissez porter, quoi. Il y a un lâcher prise. Ce qui nous manque, c'est ça, hein, pour être vraiment heureux. C'est-à-dire, faut se laisser porter par le vent.
Ben non, on se laisse porter par votre voix. Michel, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un point commun, par exemple, avec David Bowie.
Non, mais je savais que j'avais un point commun avec Mick Jagger et Michael Jackson, les initiales.
Évidemment, mais là, on va aller un peu plus loin que ça. Il y a votre interview point commun qui arrive sur RTL. C'est le bon dimanche chaud, à tout de suite.
RTL, le bon dimanche chaud. RTL, le bon dimanche chaud, l'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol.
Michel Jonas est l'invité du bon dimanche chaud aujourd'hui. Discographie extraordinaire, cet extrait de votre dernier album. C'est vrai que on le disait tout à l'heure, des centaines et des centaines de chansons et un processus d'écriture qui peut prendre plusieurs mois. D'ailleurs, on ne peut pas dire que vous avez des tubes à n'en plus finir, mais vous n'êtes pas un chercheur de... Vous ne cherchez pas à faire des tubes, vous écrivez chaque chanson de la même façon et après, ça devient un tube ou pas. La chance veut que, et le talent, vous en ayez eu beaucoup, mais vous n'écrivez pas en vous disant, tiens, ça...
Mais ça, c'est pas possible.
Ouais.
Non, parce qu'il y a dans l'écriture, il y a une part très importante qui ne passe pas par le mental, qui n'est pas réfléchie. Donc si Et puis, alors, c'est le meilleur moyen de se planter, de vouloir faire un tube, c'est le meilleur moyen de se planter, parce que vous n'êtes pas dans votre... Enfin, je ne serai pas dans ma vérité et dans ma joie d'écrire. C'est-à-dire, je serai là en train de calculer, non. C'est vrai que moi, j'adore écrire. C'est un moment important pour moi, un moment d'intimité important pour moi, et qui est la base de mon travail, bien sûr. Je passe beaucoup de temps, effectivement, sur les textes. J'ai des valises entières de cahiers et d'écoliers remplis de textes. Et par contre, les musiques, c'est autre chose. La composition, c'est quelque chose de beaucoup plus physique et de beaucoup plus spontané. Je ne peux pas passer 3 jours à faire une musique. Soit je la trouve, soit je ne la trouve pas. J'ai le texte devant, parce que j'écris tous les textes. Mais à la virgule près, doit être fini avant que je commence à composer. Et donc, quand je mets le texte fini et que je me mets au piano, là, il faut que ça aille très vite. Mais en fait, le texte contient déjà sa propre musique quand j'écris. Ça ne veut pas dire que j'ai la mélodie et tout ça, mais j'ai la pulsion rythmique, en fait. Je l'ai, parce que ça me paraît très important. C'est ce qu'il y a dans toutes les grandes poésies, par exemple. Moi, j'aimais beaucoup lire les poésies quand j'étais môme. Je me rappelle de Musset, du temps que j'étais écolier, je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire. Je me disais, mais il y a une musique là-dedans. Elle y est. Donc, il y a déjà le groove dans ces mots-là. Hein. Quand j'écris mes textes, je suis porté déjà par la rythmique des mots.
Justement, quand on parlait de la tournée groove et de la tournée piano-voix et du choix des titres, en fonction de quoi vous les choisissez, les titres? Parce que, je dis, voilà, tous ces succès que vous avez pu faire, à quel moment vous dites, je vais faire Lucille, ou tiens, je vais faire Les Fourmis Rouges, ça fait longtemps. Vous choisissez comment?
Alors, le critère le plus important pour moi, concernant le choix des chansons d'un spectacle, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai la liste de toutes mes chansons, de tous les albums depuis le début, et je les regarde. Je les écoute pas, je les regarde. Je regarde les titres. Ça oui, ça non, ça oui, ça non. Donc, vraiment, j'ai confiance, si vous voulez, dans le plaisir que j'ai de faire les choses. C'est ça qui me guide, le bonheur que j'ai de faire les choses. Et parce que je pense que sinon, ça ne va pas. Oui, moi, j'ai raconté souvent cette histoire que j'ai commencé à faire du rock'n'roll dans les années 60, au Golf Road, d'Henri Leproux, etc., avec Vigon et les Lemons, etc. Et donc, je jouais un peu d'orgue, et j'avais un plaisir, mais physique, de faire de la musique. Et je me souviens m'être programmé, je me disais, ce truc-là, faut pas que je le perde. Et donc, je ne l'ai pas perdu. Et ce qui me guide toujours, c'est pour ça que vous avez commencé à dire, je suis un môme. Mais je suis un môme, je suis un ado aussi. Quand je monte sur une scène, je n'ai pas mon âge, quoi. J'ai 18 ans et je monte sur scène au Golf Draw pour faire du rock'n'roll. Voilà, c'est pareil. Vous voyez, j'ai confiance en ce plaisir qui me guide. Et donc, je pense que c'est très important d'être heureux de chanter les chansons. Vous voyez, on a parlé d'école tout à l'heure au tout début. Oui. Je vous ai dit, c'était une contrainte. Donc, si je chante par contrainte, presque par devoir, parce que je sais que, par exemple, le public peut attendre la boîte de jazz ou Dites-moi ou Les Vacances au bord de la mer, et que je le chante pour ça, ça ne va pas aller. Parce que je ne vais pas être heureux. Je ne vais pas être bien. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais les chanter. Mais je ne les chanterai que si j'en ai vraiment envie. Donc, le premier critère de choix, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter.
Et alors, justement, qu'est-ce que tu as envie de chanter de Michel Jonas? C'est la question qu'on a posée à des animateurs d'RTL. On a eu tout à l'heure Julien Courbet. Il y a Laurent Deutsch qui nous a rejoint cette année sur RTL. Et Laurent, on lui a dit, Michel Jonas. Ah bon, évidemment, d'un point de vue racine, ça lui a parlé.
C'est d'origine hongroise.
Et oui, et puis d'un point de vue musique aussi.
Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Alors moi, la chanson de Michel Jonas que je préfère, c'est évidemment « Dites-moi », parce que je l'ai tellement vécu, hein, vous savez. « Dites-moi, dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. » Eh oui, ça sent le vécu. Et puis surtout, Michi, hein, « Hoyt Void ». C'est quand même mon papa hongrois au cinéma, Michel Jonas, quoi. Je te fais plein de bisous, Michel.
« Dites-moi,
j'ai été son père.
Dites-moi,
dans un film. » Alors, c'est drôle parce qu'il parle beaucoup mieux que moi. Moi, je parle pas hongrois, mais je peux avoir un bon accent. Alors que lui, il parle très très bien hongrois, mais il n'a pas le très bon accent.
Mais comme ça, à vous deux, ça fait l'affaire. Je parlais de points communs tout à l'heure, vous avez un point commun avec David Bowie, Michel. Est-ce que vous savez de quel point commun il s'agit?
Est-ce que c'est l'année de naissance ou...
Non. Vous avez un astéroïde à votre nom.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est aussi le cas de Freddie Mercury. Alors, d'un point de vue francophone, il y a également Georges Brassens et Jean-Michel Jarre.
Je ne savais pas.
Vous avez un point commun avec Kanye West. Vous voyez qui est le rappeur américain Kanye West?
Oui.
Eh ben, vous avez laissé tomber Twitter. Votre dernier tweet date de janvier 2020, tout comme lui.
C'est pas mon truc.
Mais alors, dites-moi, j'ai reçu sur mon Instagram, j'ai posté un message en disant voilà qu'on allait vous recevoir, etc. Et on m'a en privé envoyé un cœur. C'est vous ou c'est votre attaché de presse ? Mon cœur est brisé. Ça y est, alors là, je m'en doutais.
C'est moi.
Ah très bien, ouais, très bien. Je vais rester sur cette version.
Alors c'est pas.
Michel Jonas est avec nous. Et Michel, moi j'ai très envie, voilà, qu'on écoute du Michel Jonas. Alors tout à l'heure c'était un extrait de votre dernier album, La Méauge, le Rhône.
Bon. Mais chaque chanson quand j'ai envie de pisser.
Et la Durance, ben c'est pour ça. Je me cale, c'est calé. On fait un petit joueur de blues. Et ben c'est parti, Michel Jonas tout de suite sur RTL.
Le cambouis sur les mains, ou tu mets le cap sur les îles. Une mauvaise note au destin, ou un bon point si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville, un walkman collé sur mon.
Michel Jonas sur RTL.
RTL, 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show.
Et notre invité du Bon Dimanche Show aujourd'hui, c'est Michel Jonas. On va revenir juste après les infos de 15h. Michel, je sais que nous avons une passion en commun.
Oui.
C'est la cuisine.
Ah oui, c'est vrai.
Et on va parler cuisine dans quelques instants. Et on va également accueillir Sébastien Thoen avant 15h30, qui sera notre envoyé spécial. Je ne sais pas encore où, puisque la liaison est en train de se réaliser.
RTL, 14h-15h30, le Bon Dimanche Show, avec Bruno Guillon.
Et avec Michel Jonas avec nous encore. pendant une demi-heure. On va parler cuisine dans quelques instants, Michel, parce que j'ai deux, trois infos vous concernant sur la cuisine. Mais pour l'instant, on sort du flash d'Aurélia Valarié. Et hélas, je m'aperçois que certaines infos n'ont pas été développées. C'est un petit peu le même problème la semaine dernière avec CAD. Michel, je m'excuse, mais je vais vous prendre comme journaliste.
D'accord.
Générique. Bonjour, je suis Bruno Guillon.
Bonjour, je suis Michel Jonas.
Et voici les infos qui n'ont pas été développées dans le journal de 15h.
Et pour commencer, télévision, pour la 13e saison de Top Chef sur M6, l'émission accueille un nouveau chef. Et il s'agit de Glenn Vielle. Je rappelle le principe de Top Chef. Regardez des gens cuisiner des plats délicieux pendant 6 heures alors qu'on mange des coquillettes trop cuites sur la table basse.
Football, le mercato s'est achevé mardi dernier à minuit et dans les gros transferts à retenir, Lionel Messi est transféré au Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo est transféré à Manchester United et Benjamin Mendy est transféré à Fleury-Mérogis.
Spectacle en Dordogne, faute de spectateurs, le spectacle de Jean-Marie Bigard a été remplacé par une soirée loto. Ils sont restés dans le thème des boules, ceci dit.
Et enfin cinéma, la bande-annonce du nouveau James Bond a été dévoilée, sauf à Kaboul où a été revoilée bien sûr. Et pour finir, écoutons Denis Brognard nous expliquer en quoi cette 20e saison de Koh-Lanta diffusée en ce moment sur TF1 et qui s'intitule Koh-Lanta la légende va très certainement battre des records historiques d'audience.
Ah !
Merci Denis, le prochain rendez-vous des infos pas développées, ce sera dimanche prochain à 15h sur RTL. Ah. Bon, Michel, on va parler cuisine puisque j'ai ce petit jingle depuis tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit que... Vous étiez un passionné de cuisine, que vous étiez un épicurien, que vous adoriez cuisiner. Et alors il m'a même dit, il y a un truc extraordinaire, c'est que quand il part en vacances dans le sud, moi je lui dis mais pourquoi tu descends en voiture alors que tu pourrais prendre le train? Et en fait Michel il prend sa voiture parce que dans le coffre il peut amener ses casseroles, ses poêlons, etc. pour pouvoir préparer la cuisine avec les instruments dont il a envie.
Oui ça c'est vrai. Pas seulement, hein, y a aussi des valises quand même. Mais c'est vrai, j'aime bien cuisiner. Je pense que ça remonte à quand j'étais môme. Parce que bah justement, c'était les dimanches. Le dimanche, c'était très important pour moi. Parce que c'était la réunion de famille. On allait chez mes grands-parents, paternels, que j'ai connus. Et ma grand-mère, donc, paternelle, était une très bonne cuisinière. Comme souvent, hein. Les gens qui aiment faire de la cuisine ou manger, ou qui sont gourmands, c'est souvent derrière, il y a une grand-mère très bonne cuisinière. Et elle préparait donc des plats hongrois, mais pas seulement, elle mélangeait la cuisine hongroise avec la cuisine française, etc. C'était très très bon. Et c'était, ça durait des heures. On se réunissait, moi, quand je me rappelle de cet appartement où on allait justement avenue Henri Barbusse à Drancy, retrouver les grands-parents paternels. Moi, je me rappelle d'une table. Il y avait un salon et il y avait une table au milieu de ce salon. Et elle nous faisait la cuisine. Et ça, c'est mon grand regret de ne pas avoir été dans la toute petite cuisine, parce que je suis retourné un jour dans ce petit appartement. C'était minuscule. Et de ne pas avoir noté toutes les recettes que ma grand-mère faisait. Et donc, bah, je suis devenu gourmand quoi, avec cette cuisine-là. Et après, bah, voilà, c'est-à-dire que la cuisine, ça représentait pour moi la famille, la réunion de famille, l'amour qui nous relie, etc. Donc c'était très symbolique. Et j'ai voulu continuer ça. Les dimanches, même si on est séparés, même si on n'est pas, même si les enfants... Il y a ce truc de on se réunit le dimanche et on est ensemble.
Et je me suis même laissé dire qu'à l'époque de vos premiers cachets, vous n'aviez pas forcément beaucoup d'argent. Vous pouviez économiser pour avoir la possibilité d'aller dans un restaurant ou manger des trucs un peu sympas.
C'est vrai que les premières tournées que je faisais, par exemple, je me souviens de Stone Chardin, j'avais un petit cachet. J'étais pratiquement levé de rideau. Vous savez, à cette époque-là, il y avait ça. Vous étiez levé de rideau, c'est-à-dire vous commenciez le spectacle, chantez deux chansons, après vous pouviez grandir et être vedette anglaise. Et puis ensuite, alors là, une première consécration, c'était la vedette américaine. Ouais. C'est-à-dire que vous finissiez la première partie. Et donc on faisait ses armes comme ça, c'était très intéressant avant d'être vedette après l'entracte. Donc c'est vrai que j'avais un petit cachet et que je mettais tout cet argent dans soit un restaurant, soit un bon hôtel. Mais souvent ça allait de pair. Hein. Il y avait un bon hôtel avec un bon restaurant. Et d'ailleurs ça étonnait beaucoup Eric Chardin qui me disait mais t'es dans le même hôtel que nous, comment c'est possible? Ben oui,
épicurien. Alors interview cuisine, on va mettre deux trois ingrédients dans ces questions. Michel, qu'est-ce qui met du sel dans votre vie toujours aujourd'hui?
C'est la famille, c'est le plaisir d'être ensemble et puis ce lien d'amour qui nous relie et puis c'est l'amitié Et la cuisine, c'est ça aussi. Ça concrétise quelque chose de cet ordre-là, de cet ordre, de ce lien qui nous relie. Et puis voilà, puis on se fait des balades. Et... En fait, c'est toujours la même histoire. Ça tourne toujours autour de la même histoire. Hein le bonheur, c'est relié au fait d'être aimé et au fait d'aimer, surtout. Donc c'est toujours ça l'histoire. Et puis d'être bien, vous voyez, d'être bien... avoir un bien-être intérieur, parce qu'on sait qu'autour, il y a les êtres qu'on aime.
Est-ce que à la sortie d'un nouvel album ou d'un concert, vous mettez les bouchées doubles? On est toujours dans l'interview cuisine.
Ah.
À niveau boulot, hop, attention, la répétition, machin, yana, ou normal?
Non, normal.
D'accord.
Non.
Et dernière question cuisine, vous êtes tombé dans les pommes pendant un concert?
Oui.
Racontez-nous.
Alors, c'était à l'époque où j'avais un groupe qui s'appelait le King Set,
ouais,
justement, et où je chantais du rhythm and blues. James Brown, Wilson Pickett, Sam and Dave, ouais, parce qu'on parle souvent de jazz à mon sujet. Moi, je viens pas du jazz du
mais
tout.
Mais non, je hein. sais. Mais ouais, c'est d'ailleurs la boîte de jazz, ça part même en fait d'un échec d'audition.
D'un échec d'audition. Effectivement.
C'est, ça vient de là, en fait.
J'ai transformé en succès. J'étais content. Oui,
ouais,
parce que j'avais entendu parler de d'une audition. Ils cherchaient un pianiste. J'étais pas bon. Je me suis fait jeter. Et donc voilà, je suis descendu dans cette boîte de jazz, effectivement.
Ouais.
Où, mais il y avait pas de spectateurs. Hein. Il y avait juste un groupe qui répétait. Et je me suis mis au piano, mais j'étais pas bon, quoi. Donc je me suis fait jeter. Mais j'avais envie de progresser. Je me souviens, par exemple, un jour, devant une boîte de jazz, c'était à Saint-Germain-des-Prés, j'ai attendu Eddie Lewis. J'avais une admiration pour Eddie Lewis, qui était un très grand organiste, un des plus grands organistes du monde. Eddie Lewis, il y a d'ailleurs un album, Eddie Lewis, Michel Petrucciani, qui est génial, où ils jouaient tous les deux ensemble, qui s'appelle, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, ils ont eu le prix Victoire du Jazz. Bon. Donc, et j'attends Eddie Lewis, et, je dis, et il arrive, et je dis, monsieur Eddie Lewis, est-ce que vous pouvez m'apprendre à jouer de l'orgue, parce que c'est un roi de l'orgamon, tu vois. Mmh. Et il me dit, mais comment tu veux que je t'apprenne? Je sais même pas ce que je fais moi-même. Je sais pas où je mets mes mains. Donc j'ai compris son truc, cette histoire d'intuition, tu sais, quand on joue. Donc,
Voilà. Et alors ce malaise, c'était alors, sur malaise, James Brown.
Oui, c'est vrai. Alors, ce malaise, donc je chantais des trucs de James Brown et d'Otis Redding et Wilson Pickett, et un jour je chante une chanson sur scène, c'était au vieux, je sais pas quoi, au vieil arbre, ou je sais pas quoi. Et on était en plein air avec mon groupe, le King Set, et je chante « Papa's got a brand new bag ». Et tu sais, James Brown, il poussait des cris.
Ouais.
Et moi, je dis, je vais faire ça. Paf. Et je suis tombé. Je suis tombé évanoui par le cri que j'ai poussé.
Parce que le cri qui tue, le fameux.
Le cri qui tue. Je ne pouvais plus respirer.
Ah, mais le faites pas là.
Non, mais j'étais debout et je suis tombé. Et ça, c'était très curieux. Parce que j'ai rouvert les yeux. Et je vois un mec qui joue de la guitare. C'était le guitariste qui, lui, il me regardait. Et il continue à jouer, tu vois, puis il me regarde. Mais c'est comme si j'avais rêvé toute une nuit, quoi. C'était incroyable. Bah, je suis tombé raide. Par le cri.
D'accord.
Par le cri de James Brown. Je ne l'ai plus jamais refait. Hein.
Oui, bah, je me doute. Michel, vous restez avec nous. On parlait des victoires tout à l'heure. Vous parliez de Michel Petrucciani et de la victoire qu'il avait reçue. Vous savez,
ouais,
que vous avez été le premier artiste récompensé par.
Ben
par
oui, ça je le sais, oui, c'était en 85.
Et ben voilà, on va voir une interview première fois avec Michel Jonas, qui est notre invité cet après-midi. À tout de suite.
RTL, le bon dimanche show. Il est beau, il chante bien, il sent bon, il cuisine divinement bien et pas trop épicé. Il est talentueux. Mais c'est bête s'il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc on a pris Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL.
Michel Jonas est notre invité cet après-midi dans le Bon Dimanche Show sur RTL. Alors Michel, on le disait tout à l'heure, en 1985, lors de la toute première cérémonie des Victoires de la Musique, vous remportez la victoire de la meilleure chanson pour le titre La Boîte de Jazz. Je vous avoue qu'on a cherché sur les archives de l'INA, etc. On n'a pas retrouvé le son, mais ça devait ressembler à ça.
Et en cette année 1985, la toute première Victoire de la Musique de l'histoire est attribuée à... Michel Jonas pour La Boîte de Jazz.
Un peu parti, un peu nage,
artiste interprète de l'année aussi.
Et le artiste masculin de l'année aussi, c'est lui.
Voilà. On a fait avec les moyens du bord. Interview première fois, est-ce que vous vous souvenez de votre toute première fois derrière un piano, Michel?
La toute première fois que j'ai voulu vraiment voyez, jouer, donc, parce que c'était donc dans les années 60 où il y avait un groupe par palier de HLM. Hein. À cette époque-là, il y avait des groupes qui naissaient toutes les 3 minutes.
Aujourd'hui, ce sont des youtubeurs, mais c'est le même problème.
C'était les groupes, on répétait. Dans les... Voilà. Et il y avait un groupe qui cherchait un pianiste. Et je m'étais préparé. Et donc, la première fois que je me suis mis au piano, j'essayais de faire l'introduction, parce que j'étais un fan, je suis toujours, de Ray Charles, qui m'a donné vraiment envie de faire de la musique, de vraiment d'essayer de jouer du piano, c'est Ray Charles. Et j'ai essayé de faire dong, 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 mais avec les deux mains, alors que lui le faisait avec une seule main. Et il y avait autre chose, c'est qu'après, donc, j'ai été leur dire à ce groupe, je suis pianiste. Ma mère m'avait amené dans un magasin de musique et avec les allocations familiales, elle m'avait acheté un petit piano électrique. Et je me pointe avec ce piano électrique pour la première répétition avec ce groupe. Et donc, je ne savais pas jouer. Et donc, il y a le chanteur qui dit « Ok, mon fait, what a lot of shaking gomu ?» Parce qu'à à cette époque-là, vous voyez, oui. On transformait un peu les titres.
Bien sûr. «
What a lot of shaking gomu, les gars ?» En do. Et moi, je me dis « Mais c'est quoi ?» c'est quoi ?» Ça veut dire quoi, « What a lot of shaking gomu, en do ?» C'était going on, hein, mais c'est... Et il y avait le bassiste qui était là, qui me dit « Bah quoi ?»« En do !» Paf. Et il plaque sa main sur le piano, ouais. et je repère ses doigts. C'est-à-dire le do mi sol, l'accord parfait do mi sol, et je fais le do comme lui, je fais le do, l'accord de do avec les trois notes, et avec ma main droite je fais pareil, hein. Et j'attends que ça démarre, et je fais ça, je fais le rythme avec mes deux mains, et puis quand j'entendais que ça changeait, je cherchais discrètement la note à quoi ça correspondait.
Ah, en live?
Ben en live, j'ai appris sur le tas. C'était un blues, donc forcément do, après c'était le fa, et donc, ah oui, c'est fa, et pof, voilà comment j'ai appris, c'était les premières fois où je mettais mes mains sur un piano. Quoi.
Et est-ce que c'est après que... Quelqu'un m'a dit que... Vous avez accompagné le frère de Dalida en tournée en Europe de l'Est?
Oui, ça c'était après. Ça c'était bien après, oui, j'ai accompagné Orlando dans les... Et c'était la première fois que j'allais en Hongrie, pays d'origine.
De vos origines, ouais.
Oui, on jouait dans un cirque. En première partie, il y avait les animaux, tout ça. Et puis en deuxième partie, c'était Orlando. Et nous, c'était très curieux. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était dans un cirque. En première partie, il y avait spectacle de cirque. En deuxième partie, un chanteur.
D'accord. Interview première fois, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier succès?
Vous l'avez passé tout à l'heure. C'était... Le premier succès, c'était Apesanteur, avec le groupe
Pression.
Voilà, c'était ça. En 67, donc c'était mon premier 45 tours avec ce groupe.
Et en solo?
Il y a eu une chanson qui s'appelait La Rencontre. J'avais fait La Rose d'Or d'Antibes avec. Il y a eu un petit succès. Mais le vrai succès, ça a été le premier album. Quand j'ai changé de maison de disque, en fait, je suis arrivé chez Warner et j'ai fait un premier album. Je me souviens que quand je suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me donner comme pourcentage, ça m'est égal. Moi, ce que je veux que vous écriviez sur mon contrat, c'est que je suis mon propre directeur artistique. Ça a été important parce que j'avais une expérience passée qui n'était pas bonne, où on me disait, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'ai très vite compris que si tu t'écoutes pas toi, si tu n'écoutes pas cette voix intérieure qui te dit que c'est là qu'il faut que tu ailles, assume tes erreurs, mais écoute-toi. Donc moi, j'ai écouté les autres des fois et je me suis planté. Je me suis dit, donc ça, c'est pas un bon chemin. Et donc, ça a été le premier album qui a été en 1974 avec donc Super Nana et Dites-moi.
Dernière question sur le tout premier, votre tout premier souvenir de cinéma, Michel, en tant que spectateur dans la salle, tout premier souvenir?
C'était à Drancy, il y avait des cinémas.
Quel film?
Je me souviens plus, c'était un western. Je me souviens, c'était un western.
Parce que, Michel, vous êtes un chanteur reconnu, mais vous êtes également un excellent comédien. J'ai lu dans une interview que vous auriez adoré jouer le rôle de Tootsie au cinéma.
Ah oui, c'est vrai, ça m'aurait beaucoup plu, ça. C'est vrai. Mais pour revenir à la première fois, c'est pas seulement le cinéma, c'est ce qui m'a vraiment influencé, ce qui a joué un rôle, c'était le 25 décembre 1960, donc il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il y en avait presque qu'une seule, et il y a eu Cyrano de Bergerac, filmé, vous voyez, il filmait les pièces à la télévision, joué par Daniel Sorano, et ça m'a fait un choc, quoi. Et ça a vraiment été important pour moi, ça, ce Cyrano-là.
Alors, puisqu'on parle de comédien, je ne sais pas s'il joue le comédien ou pas, puisque Sébastien Thoen m'a dit, écoute, je ne pourrais pas être avec nous en studio ce dimanche, mais il avait apparemment une bonne raison. Sébastien Thoen serait en ce moment même à Kaboul, ce qui paraît hallucinant, on est d'accord, mais ce serait vrai. Et je crois que nous avons une liaison là avec lui. Sébastien, vous êtes là?
Tout à fait, Bruno, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends, oui, très bien. Sébastien, vous faites quoi, là?
Écoutez, j'ai décidé d'être chaque semaine au cœur de l'actu brûlante pour vous, alors pour amener de l'info et du scoop, l'émission le mérite, et vous aussi. Alors, en tant que grand chroniqueur de l'impossible, je me dois d'être au cœur du réacteur, vous voyez. Alors, c'est facile, bien sûr, pour certains, trous du cul tranquillement assis dans leur studio à Neuilly qui parlent de choses superflues.
Attendez, Sébastien, trous du cul, vous parlez de moi?
Non, mais j'ai dit trop du cul, j'ai pas dit trop de balles. Vous détendez, Bruno. Ah. Mais excusez-moi, je suis un petit peu tendu parce que franchement, j'ai une mission, je veux la partager avec les auditeurs qui le méritent et aussi avec Michel Jonas qui est à vos côtés. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, la situation est très tendue. Je suis en ce moment même sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul.
Mais non.
Mais si, Lionel, mais si.
Très bien, bonne vanne.
Non, mais on peut garder le sens de l'humour et même en zone de conflit. Je suis en direct là sur le tarmac de l'aéroport Hamid Karzai. Je peux ainsi observer la prise de pouvoir des talibans. Et je suis le dernier journaliste sur place. Il y avait un mec de BFM ce matin et un autre de Gulli, ils sont partis. Autant vous dire qu'ici, c'est chaud. Et d'ailleurs, je me suis déguisé en bagage abandonné pour pas que les talibans me repèrent, parce que vraiment, ils sont partout, ils patrouillent.
Et ça paraît incroyable votre histoire, Sébastien. Surtout votre couverture, excusez-moi, mais comment est-ce qu'on se déguise en bagage abandonné?
Bah, deux bouts de tissu, trois roulettes et hop, une étiquette qui tient pas. Et puis voilà. Enfin bref, je suis à Kaboul pour vous, pour l'émission et pour l'information. Donc respectez-moi parce que là je prends des risques, vraiment. Attendez, ne quittez pas, j'ai deux talibans qui s'approchent de. Je dis rien, mais je tends mon micro. Vous les avez entendus, Bruno?
Ben oui, on les a entendus, mais enfin, je sais pas ce qu'en pense Michel qui est à mes côtés, mais enfin, c'est très louche hein, quand même.
Par définition, un taliban, c'est louche, excusez-moi, mais attendez, c'est dingue, c'est carrément les chefs talibans. Oui, ils sont juste à côté de moi, je les reconnais, il y a le Mollah Baradar, si, si, ils sont juste à côté de moi. Écoutez.
Attendez. Là, vous êtes à quelques centimètres des responsables talibans. C'est énorme pour RTL. Hein.
Mais grave, c'est énorme. D'ailleurs, ils sont énormes. Ils font 120 kilos chacun. Ils n'arrêtent pas de parler. C'est des trucs de dingue. Je tiens un scoop là pour l'émission, pour la France, pour le monde même. C'est fou, putain.
J'imagine. On va peut-être savoir comment ils comptent gouverner le pays. Notamment le sort qu'ils réservent aux femmes afghanes.
Oui, mais j'espère. Là, je chope du scoop. Là, non, je reste parce que vraiment, ça craint pour ma vie. C'est vraiment pour la beauté de l'info et la gloire de l'émission. Attendez, ils sont en train de débattre là. Je vois que c'est tendu entre eux, ça va être un sujet super chaud. J'approche mon téléphone pour bien que vous écoutiez. Écoutez.
Oula, 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 Mbappé. Oula, oula, Kylian Mbappé. Naldin Madrid. Oula, oula, Mbappé à Paris. Ouais, oula, oula, Mbappé à Paris. Naldin Madrid.
Vous avez entendu? Ils parlent de football. Les chefs talibans parlent du transfert avorté d'Mbappé à Madrid. Je crois que c'est ça, vous avez compris?
Ouais, j'ai compris. C'est fou, mais ça paraît peu crédible, Sébastien. Je veux dire, c'est la guerre à l'aéroport et dans le pays, et les chefs talibans, donc ça a faire que de parler tranquillement de Kylian Mbappé?
Je sais pas. Peut-être. Pourquoi pas? On peut aimer le football et la guerre. Allez, bien souvent, le football, c'est la guerre. Hein. Regardez le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Oh merde.
Qu'est-ce qui se passe, Sébastien?
Il y en a un qui m'a repéré, je crois. Je vais devoir accrocher, putain.
Faites gaffe, hein, quand même.
Hey, fiston. Oui, papa. Qu'est-ce que tu fais sous le tabouret de la cuisine avec ton téléphone? Reviens à table, il reste de la mousse au chocolat que ta mère t'a préparé avec amour.
Oui, papa, j'arrive.
Oui, donc en fait, Sébastien, vous êtes chez vous et vous vous foutez de notre gueule, en fait, c'est ça?
Je voulais taper fort, je voulais faire plaisir à Michel, à RTL, et puis c'était crédible, Taliban, Qatar, football, PSG, chien américain, non?
Ouais, au revoir, Sébastien. Désolé, hein, Michel, je pensais avoir du lourd en termes d'infos, là, j'ai juste eu un mec lourd.
RTL, le bon dimanche show. Guillaume, il est... Bon, en tout cas, il est sur RTL jusqu'à 15h30. C'est déjà ça.
Et il nous reste à peine quelques minutes à partager avec Michel Jonas, qui est notre invité ce dimanche après-midi sur RTL. Michel, on a beaucoup parlé de spiritualité et on voit que c'est quelque chose qui vous porte et qui vous aide au quotidien. Vous avez entendu parler du channeling?
Le channeling. Tout à fait, j'ai entendu parler puisque, mis à part mes activités de comédien et de chanteur, j'ai aussi une petite maison d'édition littéraire,
mais oui,
spécialisée d'ailleurs dans le développement personnel et dans la spiritualité. Et il y a dans notre petite, c'est une toute petite maison d'édition, des ouvrages d'une femme qui s'appelle Claire Montello et qui faisait ça, du channeling, c'est-à-dire que c'est comme si elle recevait des messages. C'est pas elle qui écrit, elle dit que c'est pas elle qui écrit, c'est qu'elle reçoit des messages. Alors des fois c'est des messages de gens qu'on a connus ou qu'on connaît pas, mais moi le côté mystérieux, magique, etc. ne m'intéresse pas vraiment, ça m'est égal un petit peu ça. La vie elle est miraculeuse, elle est magique, mais est-ce que ce message, donc le channeling, c'est-à-dire c'est cette personne qui reçoit et qui dit qu'elle reçoit d'une entité ou d'un ange, ou de, par exemple, elle recevait des messages de Saint François d'Assise. Je me suis dit c'est intéressant, qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui Saint François, c'est intéressant. Mais ce qui compte, c'est est-ce que ce message qu'elle reçoit, est-ce que ces messages que reçoivent les gens qui font du channeling t'apportent quelque chose dans ta vie? Parce que ce côté magique de médium, etc., moi ça m'est égal ça. La vie elle est suffisamment magique comme ça. Mais par contre, il y a des messages qui peuvent effectivement t'apporter quelque chose sur ton chemin de vie.
Et ça, vous pouvez le retrouver. Donc, c'est aux éditions Michel Jonas.
Oui, ça existe.
Mais il y a beaucoup d'ouvrages. Et c'est vrai que c'est
beaucoup.
Non, mais c'est maintenant, c'est beaucoup dans l'air du temps. En tout cas,
parce que c'est un besoin qui est de plus en plus.
Cette recherche de quiétude, de recherche intérieure.
Parce que c'est un
besoin
qui est de plus en plus pressant, quoi. Parce qu'on sent qu'on est dans un monde qui change et on veut participer à cette évolution.
Michel, C'est une habitude maintenant. Bon, c'est vrai que j'allais dire c'est la tradition, mais on n'a que deux émissions, donc c'est une tradition qui est un peu récente. Nous allons finir l'émission par l'interview 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez comprendre. Normalement, c'est assez simple. On commence par le 5. 5 minutes avant d'arriver pour faire cette émission, vous vous disiez quoi, Michel ?
J'espère que je ne vais pas être en retard.
D'accord. Vous étiez à l'heure, c'est parfait.
Oui, non, mais parce qu'il y avait du monde.
Michel, 4 défauts que vous n'aimeriez pas avoir ?
La jalousie.
Vous n'êtes pas jaloux ?
Non. Non, je ne suis pas jaloux. Le manque d'humour, ça m'embêterait de prendre tout très gravement, très sérieusement, etc. Donc, ça, on pourrait dire aussi le manque de légèreté. Mm-hmm. L'avarice, le fait d'être près de ses sous. Donc, de manque de générosité, ça ne me plairait pas. J'allais dire la paresse, mais c'est pas si sûr que ça, parce que j'aime bien ne rien faire, en fait. Je ne crois pas que je sois paresseux, mm-hmm. mais j'aime assez. Il y a des gens qui détestent ne rien faire. Il y a des gens qui ne supportent pas le silence ou rester assis. Vous voyez, moi j'aime. Donc je peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre défaut, vous avez...
Je crois qu'on a eu les quatre. C'est
non,
bon.
J'ai pas. J'ai
si
pas...
si. On a eu les quatre. Bon. Vous m'avez fait les quatre. Je les ai comptés.
Mais je compte pas la paresse. Hein.
Ah d'accord.
Non.
Alors vous voulez m'en trouver un autre hein. On le prend quand même. Chiffre 3, Michel. 3 artistes que vous aimeriez ressusciter si vous en aviez la possibilité.
Oh la vache. Bon, Ray Charles, déjà. Mm-hmm. Ray Charles. Williams, l'acteur Robin Williams.
Ouais,
c'est ça.
Exactement.
J'aimais beaucoup cet homme-là.
Madame de Fayard.
Ouais, c'est ça. Il avait quelque chose. Et puis peut-être. Piaf. Piaf, c'est la première. C'est le premier spectacle que j'ai vu dans ma vie. Piaf.
C'était où ?
Ben, c'était à l'Olympia.
D'accord. Chiffre 2, 2 endroits dans lesquels on a peu de chance de vous croiser.
Peu de chance de me croiser ?
Ouais.
Les boîtes de nuit, je vais plus dans les boîtes de nuit. Et peut-être les trucs de partage sexuel, là, j'y vais pas.
D'accord. Je croyais que vous alliez me dire j'y vais plus.
J'ai jamais été.
Et enfin, le chiffre 1, une seule chanson de votre répertoire à garder. Cette question, elle n'est pas facile.
Ah non, elle n'est pas facile. Ouais. À garder, qu'est-ce ouais. que vous voulez dire
bah, c'est-à-dire, voilà, je pars, je dois garder qu'une chanson de Michel Jonas. Je prends laquelle?
Bon, je dirais peut-être Les Fourmis Rouges, parce que c'est relié à une période de ma vie, à un endroit, à un lieu, etc.
Tu te rappelles, on s'était...
Vous allez dire. Vous citez un fait de sa part.
Ah ouais.
Michel, inutile de vous dire que j'ai passé un des meilleurs moments de ma carrière.
Moi aussi.
C'est un vrai plaisir de vous avoir. Voilà, j'ai eu l'occasion de vous dire déjà combien je vous aimais.
Merci,
je vous
Bruno.
Le redis encore.
C'était très agréable.
Merci beaucoup, cher Michel. On va revenir dans quelques instants pour parler de la semaine prochaine, mais je vais vous offrir un cadeau.
C'est pas vrai.
Puisque quand on m'a dit Michel est un épicurien, je vais dire bon, allez.
Voilà.
Je vous le laisse ouvrir hors antenne. Applaudissements
ah bon
pour Michel Jonas. La tournée Groove va passer par le Palais des Sports les samedis 4 et dimanche 5 décembre prochain. Les autres dates, on va bien entendu les mettre sur rtl.fr. Et puis, il y a la tournée Piano-Voix le 15 septembre prochain. C'est au Printemps de Pérouse, Château de Chazé. D'autres dates là également que vous retrouverez sur rtl.fr. Mille merci, cher Michel, d'être
merci
venu
Bruno.
Aujourd'hui dans le Bon Dimanche Show. On revient...
Qu'est-ce qu'il m'a offert ?
C'est une bouteille. On revient dans quelques instants, et vous allez découvrir dans quelques instants qui sera notre invité la semaine prochaine. À tout de suite.
RTL, le Bon Dimanche Show. 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show.
Et si vous êtes arrivé un peu à la bourre cet après-midi en vous disant « Mais j'ai raté le début avec Michel Jonas », ça n'est pas grave. Vous pouvez bien entendu écouter en podcast sur l'application RTL, l'émission Le Bon Dimanche Show. La semaine prochaine, notre invité sera Laurent Lafitte. Je remercie Karina Siammer, Véronique Millou, François Touchard, Samy Bosque, Valérie Zetoun et Sébastien Toen qui m'ont permis de préparer cette émission. Et puis un merci également un peu spécial à Jean-Yves D'Angelo. Il m'a quand même balancé 2-3 infos, Michel. Je pense que vous l'aviez compris. Passez un bon dimanche sur RTL. Tout de suite, c'est le best-of des grosses têtes. Rendez-vous dimanche prochain.